Ronald Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Oui, les conséquences sont lourdes et les pertes importantes pour l'armée russe en Ukraine. Pour la première fois, Moscou le reconnaît publiquement. Après un mois et demi de guerre, le discours officiel devient peut-être plus difficile à tenir pour le Kremlin. Nous serons en Russie. C'est maintenant ou jamais. Dernier jour de campagne avant le premier tour de la présidentielle et la crainte d'une abstention record dimanche. Notre démocratie est-elle à bout de souffle? Les candidats rivalisent en tout cas de propositions pour l'améliorer, vous l'entendrez. Dans ce journal aussi, Frédéric Mettezo nous attend en Israël. Nouvel attentat hier soir contre un bar de Tel Aviv. Pression maximale sur le Premier ministre. Et puis il est l'un des plus grands espoirs de la natation française. Léon Marchand, 19 ans. Nous l'avons joint aux États-Unis où il s'entraîne désormais.
Et à 7h45, ce sera le débat éco. Thomas Piketty, Dominique Seux, autour de cette question ce matin. Avons-nous assisté à la campagne électorale présidentielle la moins économique de l'histoire?
France Inter.
Cette bataille rappellera la Seconde Guerre mondiale.
Voilà comment le ministre ukrainien des Affaires étrangères décrit ce que sera, selon lui, l'offensive russe sur le Donbass. Alors dans cette partie est de l'Ukraine, les autorités se préparent et tentent d'accélérer les évacuations de civils vers l'ouest du pays. Après un mois et demi de guerre, la Russie pourrait lancer cette deuxième phase du conflit à tout moment, même si ses troupes sont sérieusement atteintes, à tel point que le discours officiel se lézarde. Pour la première fois, un haut responsable russe reconnaît que le bilan humain est lourd pour son armée. Sylvain Tronchet, vous êtes à Moscou. Propos étonnant hier du porte-parole de Vladimir Poutine.
Officiellement, le bilan des pertes russes en Ukraine est resté figé au chiffre du 25 mars, 1351 morts. En 43 jours de guerre, l'armée russe n'a donné que deux bilans chiffrés, des bilans largement sous-estimés d'après l'OTAN et de nombreux experts occidentaux. Hier soir, quand le présentateur de Sky News affirme devant le porte-parole du Kremlin que la Russie a perdu des milliers d'hommes en Ukraine, Dimitri Peskov ne conteste pas. Il acquiesce d'un signe de la tête et il concède.
C'est une opération très sérieuse, avec des conséquences assez lourdes. Et nous avons subi des pertes importantes. C'est une immense tragédie pour nous.
Depuis deux semaines, l'armée russe n'a pas fourni de nouveaux bilans de ses pertes. Mais les autorités locales, les conseils municipaux, les gouverneurs de régions, un peu partout en Russie, annoncent régulièrement la disparition de soldats, d'officiers. Les enterrements réunissent parfois pas mal de monde dans les villes de garnison où l'on sait que des soldats sont morts ou portés disparus. En admettant que les pertes sont lourdes, Dimitri Peskov a-t-il mal maîtrisé son propos ou a-t-il cherché à préparer la population russe à de mauvaises nouvelles ? Moscou, Sylvain Tronchet, France Inter.
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est attendue aujourd'hui à Kiev, au lendemain de nouvelles sanctions décidées par les 27, notamment cet embargo sur le charbon russe.
Il est 7h33, cette fois c'est le cœur festif de Tel Aviv qui a été frappé.
Un nouvel attentat hier soir en Israël, c'est le quatrième en 15 jours. Un tireur a visé un bar dans une rue très fréquentée. Le bilan est de deux morts. Bonjour Frédéric Mettezo.
Bonjour à tous.
Vous êtes en direct de Jérusalem pour France Inter. La traque de ce terroriste a duré une bonne partie de la nuit, Frédéric.
Oui, peu avant 6h du matin, ici, le terroriste originaire de Jenin, ville palestinienne de Cisjordanie, a été tué près d'une mosquée de Jaffa, dans l'agglomération de Tel Aviv, à 6 km des lieux du drame. Un millier de policiers et des militaires étaient mobilisés pour le retrouver. Après cet attentat, en début de soirée, avec un pistolet, il a tiré contre les clients d'un bar-restaurant du quartier Dizengoff. On est là, au cœur de Tel Aviv, pas loin de la mer, par un temps très doux. En Israël, les gens sortent beaucoup le jeudi soir. 13 morts en 15 jours, c'est le quatrième attentat en Israël en deux semaines et les autorités sont sous pression. Le Premier ministre Naftali Bennett, qui n'a plus de majorité parlementaire, est ciblé par l'opposition de droite qui l'accuse d'impuissance face au terrorisme. En ce premier vendredi de Ramadan, jour de grande prière musulmane, les contrôles ont été renforcés à certains points de passage entre la Cisjordanie occupée et Israël. 3000 policiers sont mobilisés aujourd'hui pour sécuriser Jérusalem, où des incidents ont eu lieu hier soir entre Palestiniens et policiers israéliens.
Frédéric Mettezo, correspondant de France Inter à Jérusalem. Une femme noire à la Cour suprême, c'est une première aux États-Unis. Le Sénat a confirmé hier soir la nomination de la juge Ketanji Brown Jackson. Tous les élus démocrates et trois sénateurs républicains ont voté en sa faveur. Joe Biden salue un jour historique pour le pays. En France, le dernier jour d'une étonnante campagne présidentielle. À minuit ce soir, silence radio jusqu'à jusqu'à la fermeture des bureaux de vote dimanche. Alors à deux jours du scrutin, beaucoup d'électeurs indécis que les candidats vont tenter de convaincre jusqu'à la dernière minute. En recul dans les sondages, Éric Zemmour veut encore croire à sa présence au second tour. Il a choisi de s'adresser aux jeunes pour son dernier meeting hier soir à Paris devant 4500 sympathisants, Audrey Tison.
Et ça donne une ambiance survoltée. Ça fait des mois que ces jeunes militants font campagne pour Éric Zemmour. Ils ont tracté, collé, alors ce rassemblement vise d'abord à les remercier, mais aussi à faire passer le message « ne croyez pas les sondages ».
Ils nous disent que nous ne serons même pas au second tour. Et comme toujours, nous allons leur donner tort. Et vous, chers amis, avez-vous l'intention de vous rendre ? Non, car la victoire est proche. Je n'en doute pas un seul instant, vous y croyez ? Je l'ai vu dans vos yeux.
Message passé par Stanislas Rigaud, le président du mouvement Génération Z, qui cède la place à son mentor.
La bataille n'est pas terminée. Il nous reste 3 jours. Ne lâchez rien. Soyez combatifs. Parlez beaucoup et dormez peu. Convainquez tous ceux qui passent à votre portée. Vous comptez. Je compte sur vous autant que vous pouvez compter sur moi.
Ce soir, tout le monde en est sûr, Zemmour sera élu et pourquoi pas dès le premier tour, s'exclame une militante particulièrement optimiste.
Dernier meeting hier soir pour Éric Zemmour et ultime déplacement aujourd'hui sur des marchés pour Marine Le Pen et Anne Hidalgo. Yannick Jadot visitera lui une chaufferie biomasse à Lyon, tandis que Fabien Roussel organise son dernier apé Roussel à Paris. Jean-Luc Mélenchon préfère lui une fin de campagne en ligne. Il donne donc rendez-vous à ses sympathisants sur Twitch, Facebook et YouTube où ils pourront lui poser des questions. Le candidat Soumis qui annonce qu'en cas d'élection, il fera son premier déplacement au Panthéon pour l'anniversaire du droit de vote des femmes et rendre ainsi hommage aux 5 femmes qui s'y trouvent. Beaucoup d'électeurs indécis, on le disait, et la crainte d'une abstention record ce dimanche, nouveau signe d'un malaise démocratique auquel tous les prétendants à l'Élysée promettent de s'attaquer. Bonjour Maxence Lambrecq.
Bonjour.
Du service politique d'Inter. Les gilets jaunes ne sont pas bien loin, Maxence. Alors beaucoup de candidats proposent notamment un vrai référendum d'initiative citoyenne.
Oui, avec un seuil beaucoup plus bas, non pas 4,5 millions de signatures presque impossibles à réunir, mais 500 000 pour Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan, 700 000, dit Jean Lassalle, 1 million promettent Anne Hidalgo et Fabien Roussel pour pouvoir imposer un référendum. Jean-Luc Mélenchon veut y voir un outil pour abroger une loi ou révoquer des élus. Yannick Jadot insiste sur le référendum d'initiative locale. Emmanuel Macron, lui, ne l'envisage que pour des questions de société, comme la fin de vie après une convention citoyenne, alors que Valérie Pécresse et Éric Zemmour veulent le réhabiliter pour les réformes importantes.
Il est aussi question de reconnaissance du vote blanc.
Si le vote blanc est majoritaire, élection annulée. Pour Jean Lassalle, Nicolas Dupont-Aignan, ainsi que Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot et Anne Hidalgo, tous les trois proposent par ailleurs le droit de vote à 16 ans.
Et ce qui rassemble tous les candidats, Maxence, c'est l'élection des députés à la proportionnelle.
10% des voix, 10% des sièges, proportionnelle intégrale, souhaitée par Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Yannick Jadot, Fabien Roussel, Jean-Luc Mélenchon, Philippe Poutou. Une dose de proportionnelle chez Anne Hidalgo et Nicolas Dupont-Aignan. Et on ne touche à rien du côté d'Éric Zemmour et Valérie Pécresse. La droite au Sénat est d'ailleurs susceptible de tout bloquer.
Certains de ces candidats estiment aussi qu'en 5 ans, le président manque de temps. Alors il prône le retour au septennat.
C'est le cas de Jean Lassalle et Nicolas Dupont-Aignan. Septennat unique, propose le candidat des écologistes. Plus de président du tout pour Philippe Poutou et Nathalie Arthaud. La fin de son élection au suffrage universel direct pour le communiste Fabien Roussel.
Et il propose, il n'est pas le seul, la fin de la 5e République.
Jean-Luc Mélenchon voudrait installer une assemblée constituante à base d'élections et de tirages au sort pour bâtir en 2 ans une 6e République. Vers une première République fédérale, propose Yannick Jadot. Une République des territoires, ajoute Valérie Pécresse, qui promet une grande décentralisation sans réécrire toute la Constitution.
Merci Maxence. Comment répondre à cette fatigue démocratique ? On y revient en détail tout à l'heure dans le 13-14 de Bruno Duvic avec une partie de ses candidats à la présidentielle. Création d'usines, d'emplois, relocalisation. 2021, année record pour l'industrie française, selon le baromètre spécialisé Trendéo, publié ce matin, avec un solde positif de 120 nouvelles usines. Le nombre de productions rapatriées en France depuis l'étranger a aussi augmenté, notamment dans le secteur du cuir, de la chaussure ou encore de l'emballage. Mais les signes sont plus inquiétants pour 2022 avec l'inflation et les ruptures d'approvisionnement.
Il est 7h39 et si c'était lui, le prochain Florent Manodou.
Les championnats de France de natation se déroulent jusqu'à dimanche à Limoges. Les meilleurs tricolores sont là, sauf un grand absent, mais dont on parle beaucoup
au bord du bassin. Léon Marchand, considéré comme l'un des plus grands espoirs de la natation française, absent à Limoges car il vient de s'exiler aux États-Unis dans l'une des plus prestigieuses universités du pays et sous les ordres de l'ancien entraîneur de Michael Phelps. Et là-bas aussi, Jérôme Val, il impressionne.
Léon Marchand marche sur l'eau depuis plusieurs jours. À 19 ans, il a obtenu dans les bassins américains 3 tickets pour les mondiaux en battant au passage le record de France du 200 mètres 4 nages. Il a même été élu meilleur nageur dans l'une des compétitions. Son adaptation aux méthodes américaines a été efficace, se félicite-t-il.
Nous, on s'entraîne que 9 fois par semaine parce qu'on a les cours en fait et c'est une règle universitaire. Donc on n'a que 9 entraînements, mais ce qui nous permet d'être plus qualitatif dans chaque séance. Je passais plus de temps à l'entraînement en France qu'ici.
Dans l'immense campus de l'État d'Arizona près de Phoenix, il lui a fallu tout apprendre. La vie loin de sa famille, le rythme de ses études en informatique, il passe ses examens dans quelques jours et l'exigence du très haut niveau. L'entraîneur qu'il a formé à Toulouse, Nicolas Castel, reste admiratif.
Moi je suis toujours son supporter. Ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'on aurait pu penser qu'il allait être fatigué et puis finalement, à chaque fois, il fait des exploits. Ça, je trouve ça très fort d'arriver à être performant sur une période de compétition aussi longue.
Sous la férule de Bob Bowman, celui qui a mené Michael Phelps au sommet, Léon Marchand peut croire sa bonne étoile, parcours en tout cas exemplaire pour les nageurs de sa génération comme le dossiste Johan Ndoye-Brouard.
Il est bien costaud, il s'affirme comme l'un des meilleurs mondiaux. Pourquoi ça donne envie de faire pareil? On va essayer de le suivre, ça nous inspire.
Léon Marchand sera l'une des grandes chances de titre pour les mondiaux de Budapest en juin.
Jérôme Val, enfin cette scène surréaliste au Costa Rica, un avion cargo du transporteur DHL s'est cassé en deux lors d'un atterrissage d'urgence hier soir. Il n'y a aucune victime heureusement, mais les images sont très impressionnantes. L'appareil est littéralement en deux morceaux près des pistes de l'aéroport de San José.
Merci Alexis Morel. L'édito politique arrive sur Inter.